Je vais d'abord lire un passage dans le livre des Proverbes, au chapitre 9, les versets 1 à 6. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé une bête, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur les points culminants des hauteurs de la ville. « Quiconque est stupide !» Qu'il fasse un détour par ici. À celui qui est dépourvu de sens, elle dit, « Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Abandonnez la stupidité et vous vivrez. Dirigez-vous dans la voie de l'intelligence. » Ensuite, je vais lire dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 15 à 20. Voilà ce que nous dit l'apôtre. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Avez-vous remarqué que lorsqu'on imagine un sage, on se représente souvent un homme âgé avec une grande barbe, calme dans ses attitudes et dans son discours. Ainsi, dans la compréhension commune, la sagesse est censée venir avec l'âge et les expériences de la vie. Plus on aurait vécu d'expériences, bonnes et mauvaises, plus on deviendrait sage. Voyons si la Bible entre dans cette logique. Le texte de ce matin représente la sagesse sous les traits d'une femme. Pas n'importe laquelle, puisqu'elle a bâti une sorte de palais avec 7 colonnes sur la façade. Le nombre 7 dans la Bible, c'est le nombre parfait. Cela semble vouloir dire qu'aucune maison n'est plus belle que la maison de Madame Sagesse. Non seulement cette maison est belle, mais il fait bon y vivre, car Madame Sagesse a préparé un banquet pour tous ceux qui seront invités et qui accepteront l'invitation. Viande succulente et vin aromatisé, c'est sans doute ce que veut dire vin mêlé dans ce texte. Lorsque tout est prêt, elle envoie ses servantes pour lancer les invitations à tous les hommes. Mais comme si cela ne suffisait pas, elle se charge aussi elle-même d'inviter. Et pour que personne ne puisse dire « Ah, ben j'étais pas au courant de cette invitation », elle se place sur les hauteurs de la ville pour que tous les habitants l'entendent. Le livre des prophètes insiste particulièrement sur la volonté qu'a Madame Sagesse de s'adresser à tous les hommes. Elle ne susurre pas dans des endroits où il n'y a personne, non. Elle crie là où se trouvent les hommes. Écoutez ce que dit Proverbe 8, les versets 2 à 4. C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes. Au seuil de la ville, à l'approche des entrées, elle fait entendre ses cris. « Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse aux humains. » Dans le texte de ce matin, l'invitation est surprenante, directe, pas diplomatique pour un sou. « Quiconque est stupide, qu'il fasse un détour par ici. » Verset 4. Madame Sagesse, c'est le moins qu'on puisse dire, ne caresse pas ceux qui l'entendent dans le sens du poil. Elle a même l'air de sous-entendre qu'il y a beaucoup de stupides dans cette ville. Et elle leur donne un conseil. « Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Abandonnez la stupidité et vous vivrez. Dirigez-vous dans la voie de l'intelligence. » Remarquons une chose importante. Son palais a beau être magnifique, ce n'est pas le fait de s'y trouver qui va rendre intelligents les stupides. C'est le fait de manger la nourriture qu'elle a préparée. De même que ce n'est pas le fait d'entrer chez Trois Crocs à Rouen ou chez Lasserre à Paris qui va nous nourrir et nous régaler. mais de nous mettre à table chez eux. Deux remarques importantes. La première, l'intelligence dont parle Madame Sagesse n'a rien à voir avec les capacités intellectuelles. Il s'agit de l'intelligence du cœur. La deuxième, c'est la nourriture dont elle parle, le pain et le vin du verset 5, ce n'est pas une nourriture physique pour le corps, ni même intellectuelle. C'est une nourriture spirituelle pour l'esprit, c'est-à-dire capable d'établir, d'entretenir et d'approfondir un lien vivant entre Dieu et l'homme. En effet, cette nourriture qui rend intelligents les stupides, c'est la parole de Dieu. Souvenez-vous, avant que son peuple entre dans la terre promise, Dieu lui a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Deutéronome 8, 3. Il voulait parler des commandements. Et Dieu ajouta « Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. » Deutéronome 8, 5. Dans la Bible, sagesse et intelligence ont le même sens. Cette sagesse et cette intelligence sont offertes aux hommes pour leur permettre d'entrer dans la connaissance de Dieu et dans l'obéissance à ce qu'il dit. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, dit le Proverbe 9-10. Je rappelle que la crainte de Dieu n'est pas la peur que Dieu inspire, c'est le désir de l'honorer, de marcher dans ses voies, et donc de lui obéir. Plusieurs textes du Nouveau Testament exhortent les hommes à rechercher la sagesse et à rejeter la stupidité. Dans la parabole des 10 vierges, dans Matthieu 25, on voit que 5 d'entre elles sont dans l'attente de la rencontre avec l'époux. On sent que cette rencontre est au centre de leur vie car elles prévoient de l'huile pour leur lampe afin d'accueillir l'époux dignement. Pour les 5 autres, cette rencontre semble secondaire et elles agissent avec légèreté et négligence. Elles oublient de prendre l'huile. Les unes sont qualifiées de sages et les autres de folles. Même opposition, sagesse, stupidité dans la parabole des 2 hommes qui construisent chacun leur maison. Matthieu 7, 24. L'un accorde de l'importance aux fondations. Il construit sur le rocher de la parole de Dieu. L'autre construit sur le sable de la sagesse humaine. On sait ce qui est arrivé lorsque la tempête de la vie s'est levée. Une maison a résisté et l'autre a été détruite. Dans le texte d'Éphésiens, on retrouve la même exhortation. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Si nous n'avions pas encore compris comment l'homme peut trouver la sagesse dont parle la Bible, le verset 17 nous le dit clairement. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprendre et faire la volonté de Dieu, voilà ce qu'est la sagesse. Cette volonté s'exprime dans les Écritures. Chacun peut donc en prendre connaissance. Nous voyons bien que la sagesse, selon la Bible, n'est pas liée à l'âge ni aux diverses expériences heureuses ou malheureuses que l'homme a pu faire. Dieu et sagesse ne sont qu'un. Il a tout préparé pour que les hommes qui se croient sages, parce qu'ils ont reçu et développé des capacités intellectuelles étonnantes, sortent de leur stupidité qui les conduit à l'impasse spirituelle. Il a envoyé ses serviteurs et ses servantes, les prophètes par exemple, pour montrer aux hommes le chemin de la vraie sagesse, la sagesse selon Dieu. Et il les prévient lui-même dans la personne de Jésus-Christ qui a dit « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. » C'est dans Jean 6, 35. Beaucoup d'hommes préfèrent le pain et le vin que le monde nous offre. Ils s'en délectent sans modération, jusqu'à être ivres de vanité, d'orgueil, de suffisance. Mais lorsque l'ivresse est passée, c'est la gueule de bois de l'amertume, de la désespérance, de la solitude et du vide qui prend le relais. Car ce pain-là ne rassasie pas, et ce vin-là ne désaltère pas l'âme. C'est comme une drogue qui maintient l'homme dans un état second et qui le trompe sur le but de la vie. Le pain et le vin du monde ne comblent les désirs que pour un instant. Mais l'instant d'après, il laisse un vide dans le cœur et dans l'âme, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu, dit Paul dans 1 Corinthiens 3, 19. N'êtes-vous pas frappé par la faim souvent pitoyable, suicide, drogue, alcool, de nombreux artistes ou vedettes de cinéma et de la chanson? Ils avaient la beauté, l'argent, la gloire, l'admiration, pour ne pas dire l'adulation des foules, ainsi que tout ce que le monde peut offrir de plus beau, les palaces, les voitures et les demeures de luxe, les yachts, les bijoux, les fêtes grandioses, les voyages de rêve, les relations avec ceux qu'on appelle les grands de ce monde. Bref, une vie que des millions d'anonymes leur envient. Face au caractère flamboyant de ces vies, montrées comme des modèles de réussite par les médias people, que pèsent les mots de l'apôtre? Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Faites un bon usage du temps présent, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Oui, que pèsent-ils ces mots? Pas lourd pour ceux qui ont décliné l'invitation de Madame Sagesse à venir goûter les mets qu'elle a préparés. On le voit bien autour de nous, parfois dans nos propres familles. Combien d'hommes vivent comme si Dieu n'existait pas, comme si la Bible n'était qu'un simple conte pour utopiques invétérés. Et pour nous, qui entendons ce message, quel poids ont-ils ces mots? Le menu que nous propose l'apôtre pour être rempli de l'Esprit est-il notre menu quotidien? Ou bien est-ce le menu des occasions exceptionnelles? Je relis le menu. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Ce que nous pouvons vivre au culte le dimanche matin, j'ai envie de dire que c'est le dessert supplémentaire, le dessert de fête de la semaine. Mais avons-nous des repas spirituels complets et équilibrés les 6 autres jours? Quelle place accordons-nous chaque jour à la méditation de la parole de Dieu et à la prière? Nous savons tous, par la télévision, qu'il faut manger 5 fruits et légumes chaque jour et faire au moins 3 demi-heures d'exercice physique par semaine pour bien se porter physiquement. Et nous mettons tout en œuvre pour atteindre ce but. En est-il de même pour notre santé spirituelle? Ne soyons pas des chrétiens anorexiques. Nourrissons-nous avec délectation et reconnaissance de la nourriture spirituelle que nous offre l'Écriture. Soyez remplis de l'Esprit Saint, nous dit l'apôtre. Écoutons-le, car seul l'Esprit Saint permet aux croyants de ne pas confondre sagesse du monde et sagesse de Dieu. Il leur permet aussi de résister aux sirènes du monde et de choisir librement le chemin de vérité et de vie avec le Christ.